Les oreilles libres sur Radio Libertaire 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Les oreilles libres aujourd'hui dédiées à l'écrivain Robert Walser.
Nous allons à présent écouter notre ami Mathias Dufil qui participe régulièrement à nos appels à contribution. Il nous interprète Noël, extrait de L'Enfant du Bonheur et autres proses pour Berlin.
Dans une chambre de misère, une femme est allongée sur son lit étroit, vêtue des habits qu'elle portait dans la rue il y a 2 jours, peut-être un pansement sur l'œil. Elle est journalière. Elle faisait des nettoyages aux abattoirs du village. Et par un malheureux concours de circonstances, une escarbille d'os coupante lui est entrée dans l'œil. Et voici couchée ici maintenant, paralysée par la douleur et le regret de ne pas avoir été un peu plus prudente. Son front est atrocement enflammé. Ce sera bientôt Noël. Quel Noël ! La tempête chahute autour de la maison, ou de la masure plutôt. Un peu de neige voltige, si peu. 2, 3, 5 flocons, on pourrait les compter. C'est le signe d'un froid cruel, persistant. Car lorsque la neige tombe en masse souple, il fait toujours plus ou moins doux. Au mur de la pièce, sommairement meublée, sont accrochées des images saintes, des chromoses bon marché achetées au colporteur pour quelques flénines. On ne sait où, on ne sait quand. La femme regarde les images sans comprendre. En ce moment, elle regarderait n'importe quoi ainsi. Ses lèvres sont gercées tant elle a pleuré. Il y a 2 jours et 2 nuits qu'elle est couchée ainsi. Personne ne vient la voir. Personne ne lui rend visite. Il fait froid dans la chambre et l'odeur est si fétide. La femme n'a pas pu aérer. Lorsqu'une chambre habitée n'est pas aérée, qu'il y fait froid, il ne faut pas longtemps pour que le froid redouble dans la pièce. La femme est allée en ville consulter un médecin, mais il n'a rien pu trouver dans l'œil. On imagine bien comment un médecin ordinaire traite une pauvre femme comme celle-ci, non pas grossièrement par exemple, ni vraiment sans cœur, oh non. Pas du tout, et pourtant, grossièrement, et sans cœur. Le mari de cette femme est en prison. Il était autrefois cheminot. Un petit garçon de 5 ans est recroquevillé par terre et s'amuse avec lui-même. Il a froid, mais il ne sait pas encore ce que le gel, le froid et les plaintes veulent dire. Est-ce qu'il y a du lait ? Demande-t-il. La suite de quelques négligences formelles, la femme n'obtiendra rien de l'assurance accident. Le régisseur du château comtal le lui a fait dire. Peut-être la douleur intérieure qu'elle endure lui vaudra-t-elle un petit encouragement ? Non ? Alors une dame viendra peut-être dans la chambre de misère et déposera quelque chose sur le lit ? Pas non plus ? Eh bien, il ne reste donc plus à la pauvre femme qu'à faire preuve de patience. Elle songe pour la 1000e fois. Si seulement j'étais bien portante, quelle joie, quelle fête. Souvent, elle est sur le point de crier à Dieu sa misère. Non pas de colère, non, ce n'est que la tonalité qui est mal ajustée. Elle veut supplier, mais la douleur lui arrache un cri de rage. Est-ce bien cela, Noël, lorsqu'une petite poussière nous vole dans l'œil, alors instantanément, craignant pour ce qu'on sait délicat et fragile, on ferme les paupières, seule pensée de la blessure fait mal, brûle, entaille, mais ici au fond des orbites, tout est dévastation et rugissement. Le supplice se transforme en un personnage impérial. Toute la chambre, toute l'église, l'existence est noyée dans les flammes rouges. La patience est difficile ici. La patience siège dans le cerveau. C'est avec la tête qu'on est patient, pensée. Or, ici, les pensées brûlent et la femme sent son cerveau tournoyer comme une roue crachant du feu. Comme elle aimerait travailler, s'éreinter pour la moitié d'un salaire. Avec quelle joie elle se ferait battre, tourmentée, ridiculisée, méprisée, brisée, être forcée de rester couchée ici, tout habillée dans un lit, humide et en désordre comme une paresseuse et incapable. Apte au travail, ce désir illumine mieux que toutes les bougies de Noël de l'ancien et du nouveau monde. Se relever de ses souffrances répugnantes, revenir à l'ordre et à la netteté du labeur quotidien. Cette pensée est un baiser bien plus enivrant que les baisers de Roméo et Juliette. Pourquoi personne ne vient-il ? Crie la femme. Alors on frappe à la porte, un jeune homme entre. Ce n'est pas un sauveur, ce n'est pas un Jésus-Christ, mais au moins un être humain. Il s'approche du lit, dit quelques mots à la femme. La simple langue des hommes la fait éclater en sanglots. Il aperçoit le visage enflé, rouge sombre. Il offre une pièce de monnaie. À quoi bon ? La femme saisit les mains du jeune homme et les presse contre ses yeux. Puis l'homme sort. Des membres jeunes. Le monde est si vaste. Si vaste et transparent, si clair, un noble attelage traverse au galop la ruelle du village. Canard et roi se dandinent du côté de l'étang. À la poste, quelqu'un expédie de l'argent. Les pièces d'or teintent au guichet. Là-haut, au château, on prépare Noël. Le train s'arrête devant le bâtiment de la gare. Quelques personnes descendent, quelques autres montent, le train repart. Robert Walser, 24 décembre 1907.
Voilà. Nous poursuivons l'écoute des textes de Robert Walser avec Patricia Favreau, Fred Marty et Jacques Pochat, Fräulein Knuschel, extrait de Petite Prose.
Schöne Haare, schöne Augen, weiche Hände, schöne kleine Füße, Traumerscheinung. Weiße, weiche Haut, beaux cheveux, beaux yeux, douce main, jolis petits pieds, silhouette de rêve, peau blanche et fine. Fräulein Knuschel avait tout cela. Mais Fräulein Knuschel n'avait pas encore de mari. Comment était-il possible que Fräulein Knuschel n'ait pas encore de mari ? Pour la bonne raison qu'elle considérait que quiconque la voulait était une lavette. Pour la bonne raison qu'elle avait de grandes exigences, pour la bonne raison qu'elle aimait rire et se moquer, pour la bonne raison qu'elle ne voulait que le plus beau et le plus intelligent, un homme simple et honnête était un dadais. Et voilà pourquoi elle ne voulait pas de mari. Elle voulait le plus intelligent et le plus beau. Tous les autres. Tous les autres étaient des dadais. Quiconque l'aimait, elle le regardait de haut. Et il était un cornichon. Fräulein Knuschel était-elle arrogante ? Fräulein Knuschel était-elle arrogante ? Oui, elle l'était ! Et de ce fait, elle n'avait pas de mari, car un homme raisonnable ne veut pas être un imbécile. Elle disait volontiers, « Moi, je ferai le malheur d'un homme !» Et avec des déclarations aussi audacieuses, elle se croyait prodigieusement intéressante. Mais avec ce genre de déclarations, elle ne trouvait pas de mari, du moment qu'aucun homme raisonnable n'a envie de courir à son propre malheur. Il y en eut un, paraît-il, qui lui fit une demande sincère, honorable. Elle lui dit « Vous seriez un pauvre diable si vous me preniez ?» Il répondit « Je ne veux pas être un pauvre diable. » Et il s'en fut, plantant là Fräulein Knuschel. Fräulein Knuschel voulait bel et bien un mari, mais elle ne voulait que le plus intelligent. Tous les autres étaient de simples nigauds. Qui lui voulait du bien était embobé. Fräulein Knuschel était autoritaire. Elle voulait pour mari le plus beau et le plus intelligent. Mais son mari devrait néanmoins lui obéir en tout. Son mari devrait lui obéir en tout. Or, un homme beau et intelligent n'aime pas obéir du tout. Un homme brave et qui a des usages ne veut pas être un caniche. Fräulein Knuschel aurait dû y penser, mais hélas, elle n'y songeait pas. En se moquant, elle croyait être intéressante et en repoussant, elle se croyait irrésistible, mais elle se trompait et du fait qu'elle se trompait, elle ne trouvait pas de mari. Beaux cheveux, beaux yeux, douces mains, jolis petits pieds, silhouette de rêve, peau blanche et fine. Fräulein Knuschel avait tout cela, mais Fräulein Knuschel n'avait pas de mari. Comment était-ce possible, sa perlotte ? Nous l'avons dit, à quoi bon le dire encore une fois ? Elle était économe et s'y connaissait en raccommodage. Mais à part ça, elle ne pouvait que faire le malheur d'un homme, elle le disait elle-même. À quoi bon pouvait être utile à un homme son sens de l'économie et son habileté de raccommodeuse si elle devait faire son malheur ? À quoi bon ses beaux yeux, beaux cheveux, douces mains ? Jolis petits pieds, silhouette de rêve et fine peau blanche. Si Fräulein Knuschel, comme elle le disait elle-même, ne faisait que son malheur. Jolis petits pieds, beaux yeux, beaux cheveux, douces mains. Si c'est pour être malheureux, je renonce volontiers à tous ces beaux cheveux. Beaux yeux, douces mains, jolis petits pieds, silhouette de rêve, fine peau blanche, économie et habileté de raccommodeuse, je pars en courant et je me félicite d'être loin de toutes ces belles choses, car un homme, qu'a-t-il à faire d'une femme intéressante ? Un homme intelligent se fiche de ce qui est intéressant. Et du moment qu'un homme intelligent se fiche de ce qui est intéressant, Fräulein Knuschel ne trouvait pas de mari, car elle était intéressante. Thank you. Une femme ne doit pas être intéressante, mais honnête et modeste, gentille et vertueuse. Ainsi, elle trouvera sûrement un mari, même si ce n'est pas le plus beau ni le plus intelligent. Peut-être.
Nous écoutons Colline et Willy Will à la voix, musique de Gaël Delpech, Schwending Man, extrait de morceaux de prose.
Welcome in the city, bienvenue à Radio Libertaire. Et bien, ça tout de suite instant. The big story.
The incredible story.
Il était une fois un homme bizarre.
Voilà, voilà, mais quel genre d'homme bizarre? Quel était son âge et d'où venait-il?
Je n'en sais rien.
Alors tu peux me dire son nom peut-être?
Il s'appelait Schwendiman.
Schwendiman. Bien, très bien, Verz, écoute. Eh bien, vas-y, s'il te plaît, raconte-nous un peu. Que voulait donc ce Schwendiman?
Ce qu'il voulait? Lui-même ne le savait pas au juste. Il ne voulait pas grand-chose, mais il voulait quelque chose de juste.
Que cherchait, que recherchait Schwendiman?
Il ne cherchait pas grand-chose, mais il cherchait quelque chose de juste. Dérouté.
Perdu dans le vaste monde.
Voilà ce qu'il était.
Ah bon? Perdu? Dérouté?
Grand Dieu!
Mais où va-t-on?
Avec ce pauvre homme.
Au néant?
Au grand tout.
Ou quoi encore?
Angoissante question.
Tous les gens lui jetaient des regards interrogateurs.
Et lui regardait les gens d'eux-mêmes, si craintifs, si pitoyables.
Ainsi, il allait son chemin, fatigué, avec peine, d'un pas incertain, chancelant. Et les écoliers s'amusaient à le suivre et le taquiner en lui demandant
« Que cherches-tu, Schwendiman ?»
Il ne cherchait pas grand-chose,
mais il cherchait ce qui était juste. À la longue, il espérait vraiment trouver ce qui serait juste. « Ça va se trouver, marmonnait-il dans sa barbe noire, hirsute. »
La barbe noire de Schwendiman était tout hérissée.
« Ah bon? Hérissée? Ganz genau, c'est ça! Oui, admirable! On peut bien le dire,
prodigieusement intéressant. » Pile à ce moment-là, il se trouva devant la maison de l'hôtel de ville.
« On ne peut pas m'aider ni me conseiller, dit-il. »
Et comme,
à son avis, il n'avait strictement rien à faire à l'hôtel de ville,
il fit la plus loin et se trouva devant l'hospice des pauvres. « Je suis pauvre, d'accord, mais je n'ai rien à faire à l'hospice. »
songea-t-il, et il continua son chemin sans se laisser abattre. Et au bout d'un moment, il se trouva à l'improviste devant le local des pompiers.
« Ça ne brûle nulle part, » dit-il. Et il continua de mauvaise humeur. Quelques pas encore, et le voici devant le Mont-de-Piété. « Dieu sait que je n'ai rien au monde à mettre en gage. » Et un peu plus loin, devant les bains publics...
« Je n'ai pas besoin de me baigner. » Quelques instants plus tard, comme il passait devant l'école, il dit
« Le temps où j'allais à l'école est passé. »
Et il continua, un peu déçu, tout en hochant sa tête bizarre.
« Je finirai bien par passer devant la bonne maison, »
dit-il. Peu après, Maître Schwendiman se trouva devant une grande bâtisse sinistre.
« C'était la prison. Je ne mérite pas de punition,
je mérite autre chose !» murmura-t-il pour lui-même. Et il alla plus loin pour arriver bientôt devant une autre maison. Et c'était l'hôpital où il dit
« Je ne suis pas malade, je suis différent, je n'ai pas besoin de soins, j'ai besoin de toute autre chose. »
Il continua en titubant, c'était une journée claire et radieuse.
Le soleil étincelait et les jolies rues étaient pleines de monde.
Et le temps était étincelant, proprement propre, tellement souriant, mais Schwendiman ne faisait pas attention au beau temps. Il arriva ensuite devant la maison de ses parents, la chère maison de son enfance.
La maison où il était né.
J'aimerais bien redevenir un enfant et avoir des parents, mais mes parents sont morts et l'enfance ne reviendra pas.
En hésitant, il alla plus loin à pas pensif et vit la salle de bal, puis le magasin.
Je n'aime pas danser.
Dès devant le magasin.
Je n'ai rien à acheter ni à vendre.
Peu à peu, le soir tombait. Mais où était donc la place de Schwendiman?
Dans une maison de travail.
Il n'avait plus envie de travailler.
Dans la maison de joie.
Les plaisirs et les joies m'ont passé.
Un peu plus tard, il se trouva devant la maison de justice et dit « Ce n'est pas un juge qu'il me faut. Il me faut autre chose. »
Devant les abattoirs, il dit
« Je ne suis pas un boucher. »
Le presbytère, il n'avait rien à y faire.
À son avis.
Et théâtre, les gens comme Schwendiman n'ont pas grand-chose à y chercher.
Et les gens de cette sorte n'entrent pas non plus dans les salles de concert. Il alla plus loin, en silence.
Machinalement.
C'est à peine s'il pouvait garder les yeux ouverts tant il était fatigué.
Il avait l'impression de dormir debout, de marcher tout endormi.
Quand donc arriveras-tu devant la bonne maison, Schwendimann ?
Patience, ça va marcher.
Il arriva devant une maison en deuil.
Je suis triste, oui, mais ma place n'est pas ici.
Et il alla plus loin, arriva devant l'église et continua sans un mot. Arriva devant une auberge où il dit
« Je ne suis pas un client apprécié et personne n'aime me voir arriver. »
Et il continua son chemin.
Enfin, au terme du pénible voyage, alors que la nuit était déjà noire, il arriva devant la bonne maison. Et dès qu'il l'aperçut, il dit
« Enfin, j'ai trouvé ce que je cherchais. Ma place est ici. »
Un squelette gardait la porte à qui il demanda
« Est-ce que je peux entrer ici pour me reposer ?»
Le squelette eut un rictus très aimable et dit « Bonsoir, Schwendimann. Je te connais bien. Entre. Tu es le bienvenu. »
Il pénétra dans la maison que chacun trouve pour finir et là, il y avait de la place. Non seulement pour lui,
mais pour tous.
En suffisance. Et dès qu'il fut entré, il s'écroula
et mourut.
Car c'était dans la maison des morts qu'il était arrivé et là...
Et là il eut la paix.
Nous écoutons maintenant Fred Marty, extrait encore du même ouvrage, morceau de prose, La saucisse.
Rien du tout. Ma saucisse. À quoi je pense ?
Rien du tout.
Je pense à une saucisse.
Hélas !
C'est affreux. Jeunes gens, hommes qui servaient l'État, vous en qui l'État place son espoir, prenez soin de m'examiner et de considérer en moi un horrifique exemple, car je suis tombé bien bas. Je n'arrive pas à m'arracher à la pensée que j'avais tout à l'heure. Une saucisse qui est perdue pour toujours à présent.
Rien du tout.
Je l'ai sortie de mon armoire et à cette occasion, je l'ai mangée.
Hélas.
Avec un plaisir trop sincère, semble-t-il, j'ai mangé ce qui pourrait encore exister si je ne l'avais pas englouti.
Hélas.
Oh. Il y a quelques minutes encore,
ma saucisse.
La meilleure et la plus juteuse des saucisses était là, bien en chair. Mais à présent, par la faute d'une consommation hélas trop étourdie, la plus délectable des saucisses
hélas.
A disparu.
Oh.
Ce dont je suis inconsolable.
Ma saucisse. Rien du tout.
Ce qui était là tout à l'heure est loin, et plus jamais personne ne me
ma
le
saucisse.
Rendra. J'ai mangé ce que je n'aurais jamais dû manger
hélas.
Aussi vite.
Oh.
Ce dont jamais, au grand jamais, je n'aurais
ma
dû
saucisse.
Me régaler aussi précipitamment.
Rien du hélas. Oh. Ma saucisse.
Rien du tout.
Hélas.
Oh.
Ma saucisse.
Rien du tout.
Hélas.
Oh.
Ma saucisse.
J'ai dévoré ce qui
rien
maintenant encore pourrait me régaler, si
hélas.
Seulement j'avais résisté
oh.
À la concupiscence.
Ma saucisse.
Je regrette profondément de n'avoir pas résisté à la concupiscence.
Hélas.
Et d'avoir consommé ce qui était à ma disposition il y a quelques minutes encore, frais et rose,
hélas.
Et qui dès maintenant et à jamais ne sera plus
ma
à ma disposition.
Rien du tout.
Puisque je l'ai consommé à la
hélas.
Légère.
Oh. Ma
j'ai fait usage
rien
de ce
tout.
Dont je pourrais encore faire usage
hélas.
S'il
oh.
N'était pas arrivé ce qui est arrivé,
ma
qui est irréparable.
Hélas.
Ce
oh.
Qui n'est plus pourrait encore être ici, tranquille et
rien
paisible. Et ce qui est irrémédiablement perdu
oh.
Pourrait éveiller mon appétit.
Ma
mais ce qui éveillait l'appétit n'est plus. Et
hélas.
Je le déplore sincèrement.
Oh.
Tout
ma
en sachant que toutes ces lamentations ne servent pas à grand-chose.
Hélas.
Ou même à rien
oh.
Du tout.
Ma saucisse.
Rien du tout.
Hélas.
Oh.
Ma saucisse.
Rien du tout.
Hélas.
Oh.
Ma saucisse.
L'entamer
rien du
pourrait
tout.
Être inentamé. Le manger pourrait ne pas être mangé. Le happé pourrait ne pas avoir été happé.
Rien
si j'avais été plus prévoyant et tempérant. Mais hélas, je n'ai été ni tempérant ni prévoyant. Et je le regrette profondément. Même si je vois que lamentation et repentir ne servent pas à grand chose. Ou même à rien du tout. Ce qui a disparu pourrait être disponible. Et ce qui est mort pourrait vivre de bon cœur. Ce qui a été croqué et déchiqueté d'une dent cruelle pourrait être intact. Mais hélas, déchiqueté. Aucune lamentation n'y changera rien. Ce qui n'est plus utilisable pourrait rendre les meilleurs services.
Ma saucisse.
Rien du tout.
Hélas. Ma saucisse.
Rien du tout. Et ce qui est loin et absent pourrait encore me combler de sa présence. Si seulement je n'avais pas commis cette chose lamentable que je n'ai que trop de raisons de regretter. Hélas.
Ma saucisse.
Ce qui est, comme je l'ai dit, absent, n'aurait pas, comme je l'ai dit, eu besoin de disparaître aussitôt. Si j'avais su mieux résister, et si j'avais été plus fort, et si j'avais renoncé à mes mauvais penchants.
Rien du tout.
Désir coupable, vous m'avez volé ma saucisse.
Ma saucisse.
Rien du tout. J'ai dégusté ce qui serait encore une nourriture que je pourrais déguster si je m'étais abstenu de le déguster et de m'en délecter. Ce dont, je l'ai dit plusieurs fois, je suis inconsolable. Je ne peux que le répéter encore et toujours.
Hélas.
J'ai pris une gifle pour avoir goûté à une nourriture trop exquise, laquelle à présent a été dégustée et goûtée tout entière du moment que j'ai été intempérant. Ce dont je me repens.
Hélas.
Le repentir ne sert à rien.
Rien du tout.
Il aggrave la perte de la saucisse au lieu de la diminuer. Je vais donc essayer d'éviter le repentir. Ce qui est très difficile, de toute façon, parce que la raison d'être repentant est grande et considérable.
Hélas. Ma saucisse.
Rien du tout.
Hélas. Ma saucisse.
Rien du tout.
Hélas. Ma saucisse.
Rien du tout. J'ai subi une défaite pour n'avoir pas mis de côté ce que j'aurais absolument dû garder pour plus tard.
Ma saucisse.
Ce dont j'aurais dû prendre soin alors que j'en ai pas pris soin, hélas. Encore que je puisse à peine me croire, puisque j'ai toujours cru que j'étais fort et capable de résister. En quoi je me trompais, semble-t-il. Ce qui me fait mal. Encore que, comme je l'ai dit, le repentir ne serve à rien.
Ma saucisse.
Rien du tout.
Hélas. Ma saucisse.
Rien du tout. Cette saucisse, hélas. Je le jure, c'était une splendeur. Elle était merveilleusement fumée.
Rien du tout.
Elle était lardée de délicieux morceaux de lard.
Hélas.
Elle avait une odeur tout à fait respectable, appétissante. Et quel parfum elle avait. Si suave, si enivrant. Et quelle couleur qu'elle avait. Si rose, si tendre, et comme elle craqua au moment où je mordis dedans, j'ai encore dans l'oreille ce craquement, et comme elle était juteuse. De ma vie, je n'ai rien mangé de plus juteux, et cela, juteux et délectable, pourrait être juteux et délectable encore à présent, et cela, rose et tendre, pourrait être rose et tendre encore à présent, et cela, parfumé, parfumé encore à présent, et cela, délicieux et appétissant, délicieux et appétissant encore à présent. Et cela, long et rond, rond et long encore à présent. Et cela, fumé, fumé encore à présent. Et cela, lardé de lard encore à présent. Si seulement j'avais eu de la patience.
Ma saucisse,
rien du tout.
Hélas. Ma saucisse,
rien du tout.
Hélas.
Encore maintenant, je pourrais l'entendre craquer.
Rien du tout.
Si je ne l'avais pas déjà fait craquer.
Hélas.
Et encore maintenant, il y aurait à mordre dans ce que trop vite, hélas, j'ai croqué.
Hélas. Ma saucisse.
Rien du tout.
Hélas. Ma
Les oreilles libres sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4.
En région parisienne et partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire.net. Nous poursuivons notre émission consacrée aujourd'hui à l'écrivain Robert Walser. Et je vous propose de m'écouter à la voix et à la basse dans une interprétation de La Chouette, extrait de Félix.
Dans une cour où traînent toutes sortes de vieux fers, etc. Félix a une chouette enfermée. Comment peut-on être aussi muette, hein, toi ? N'est-ce pas se montrer exagérément taciturne ? Peut-être es-tu plus importante qu'il n'y paraît. Parle donc un peu. N'avoir à ce point pas envie de communiquer. Dormez-vous, mademoiselle ? Il ne suffit tout de même pas d'avoir tout le temps la même expression. Ce n'est même pas une expression. N'aurais-tu vraiment rien à me dire, Amalia ? Voici le parc et Charles en ce moment est fort occupé dans les forêts de Bohême. Dans ce cas, je m'appellerai donc Franz et te prierai de me donner un modeste signe d'affection. Ton air perdu te semble-t-il une expression orale suffisante ? Près de toi, je pourrais presque perdre patience. Depuis combien de temps es-tu assise ainsi ? Dis-le, mais dis-le donc ! Parle ! Est-ce que tu appelles ça une conversation, ne pas prononcer une seule syllabe ? Et faut-il qu'à ton aspect annonciateur de monotonie, je devine des choses incompréhensibles à venir ? Es-tu à l'heure ? Où es-tu tel que tu apparais ? Pas de réponse à une question si typique de France ? Le vieux Moore est logé dans la tour. Comment peux-tu dès lors avoir un regard aussi fixe ? Et tes yeux ronds paraissent exprimer toute la sagesse du monde. Sais-tu que dans 8 jours je vais quitter l'école et entrer en apprentissage ? Et as-tu conscience de la grandeur de Shakespeare ? Et as-tu l'intention de finir ta vie entre ces barreaux ? Mais peut-être il y a-t-il un sens dans cette absurdité ? Est-ce ton rêve d'amour, ton rêve de fidélité qui te rend totalement insensible à l'instant qui glisse, qui passe et s'envole ? Ne trouves-tu vraiment jamais, jamais dommage de gaspiller ainsi ta beauté ? Qu'as-tu fait de toi pour perdre cette gorge qui chantait, refléter le bonheur pour qu'elle se fonde dans ta tête ? Comme si toutes les nuques sublimes étaient superflues pour l'éternité. Est-ce de te languir du cœur de Charles qui t'a rendu si laide ?
Va-t'en, Franz. Elle paraît bien décidée à ne rien dire.
Que faire d'une dame aussi énigmatique ? Elle croit peut-être parler, peut-être le fait-elle et je n'entends rien. Et voici autre chose qui s'approche de moi. Veux que je le vive. Des chouettes partout, des chouettes. Les miracles archaïques sont toujours parmi nous. Je crois être moi quand c'est peut-être un Kirghize. Ne faut-il pas après tout envisager tous les possibles ? Je recule et peut-être suis-je en train d'avancer. Toute assertion est une grande imprudence. Certains de mes camarades déjà ne me reconnaissent plus parce que déjà notre sphère se lit sur mon visage. Distrais-toi mon petit trésor, il n'est être vivant qui saurait te faire aucun bien. Oh, que je puisse devenir chouette un jour et que plus rien ne me touche, ne m'émeuve. N'est-ce pas là une idée vraiment planétaire ?
Il faut que je m'enfuie avant qu'elle m'ensorcelle. Je ne veux pas sitôt être rappelé au doute.
Delphine Dora, pianiste, compositrice, interprète, chanteuse, nous propose un mix d'extraits issus du roman Le Brigand, du roman Microgramme. Hein.
Micrographique.
Ouais. D'accord.
Micrographique.
Edith Lem. Nous y reviendrons, peut-être, s'agissant d'un bon à rien qui n'a pas un sou. N'aurait-elle jamais dû ouvrir de relations avec lui ? Il semble qu'elle lui envoie des délégués, ou comment dire, des chargés de mission. Il a des amis comme ça, un peu partout, mais il n'y a rien de sérieux là-dedans. Et encore moins avec la fameuse histoire des 100 francs. Jadis, il lui est arrivé par pure générosité, par philanthropie, de laisser en d'autres mains 100 000 marques. Quand on rit de lui, il rit aussi. Rien que ce trait pourrait déjà paraître inquiétant chez lui. Il n'a pas même un ami. Depuis le temps qu'il est ici parmi nous, il n'a pas pu réussir. Et il en est très content à obtenir du monde masculin une quelconque marque d'estime. N'est-ce pas la preuve d'une absence de talent, des plus criantes qu'on puisse imaginer ? À beaucoup et depuis longtemps, ses manières polies tapent sur les nerfs. Et cette pauvre Edith qu'il aime est lui pendant ce temps. Comme il fait très chaud en ce moment, il va se baigner le soir jusqu'à des 9h30. Soit qu'il le fasse, mais qu'il n'aille pas se plaindre. La peine incroyable qu'on s'est donnée pour le former. Croit-il donc, ce Péruvien, ou comme il voudra se dire, qu'il pourrait s'en charger lui-même ? Qu'est-ce que c'est ? C'est comme cela que des filles du peuple s'adressent à lui ? Et cet idiot, c'est s'il en a l'air, trouve cette façon de lui demander ce qu'il veut charmante. Cela fait un moment qu'elle le traite, ici ou là, comme si son cas était réglé. Et le comble, c'est qu'il aime ça. Elle le regarde, comme si elles allaient dire. Encore ce type impossible pour ne pas changer. Ah, quel ennui ! On le regarde de travers, et lui, ça l'amuse. Aujourd'hui, il a plu un peu et ainsi donc, elle l'aime. Elle l'a pris en affection, on pourrait dire du premier coup d'œil, mais lui n'a pas cru que c'était possible. Et maintenant, il y a cette veuve morte à cause de lui. Nous reviendrons sans aucun doute sur cette relativement honorable femme, qui possédait un magasin dans une de nos rues. Notre ville ressemble à une grande ferme tant ses parties forment un joli tout. De cela aussi, il y aura plus à dire, de toute façon, je serai bref. Croyez bien que je ne vous dirai que des choses convenables. C'est que je me tiens pour un auteur sérieux, en quoi je suis peut-être bien fou. Il semble que pour ce qui est de boire du vin, ils s'y entendent à l'égal de Sancho Panza, dont les parents étaient vignerons. Dans le vin, il y a comme un droit à la supériorité. Quand je bois du vin, je comprends les siècles passés, je me dis qu'ils étaient faits eux aussi de choses présentes et du plaisir d'y trouver place. Le vin rend connaisseur de l'âme et de ses états. On considère alors à la fois tout et finalement rien. Dans le vin, on voit les reflets du tact. Si tu es un ami du vin, tu es aussi un ami des femmes et le protecteur de ce qu'elles aiment. Les relations, même les plus compliquées qui existent entre un homme et une femme, sortent du verre simple comme des fleurs. Toutes les chansons qu'on a faites sur le vin disent la vérité. Le brigand pensa au projet qu'il avait eu d'écrire sous les yeux d'Edith, en présence donc de celle qu'il aimait, c'est-à-dire dans la salle où elle servait le roman que depuis si longtemps ses amis attendaient de lui. Quelle romantique résolution vouée à l'échec naturellement. Et puis ses gérants aussi qui tantôt le saluaient poliment, à la fois d'après lui tournaient le dos, au gré de leur humeur apparemment. Il avait en effet l'habitude d'aller voir les filles aux ordres de ses gérants en qui elles voient leur supérieur. S'il prenait auprès de ses filles le rôle de l'homme réfléchi qui sait mieux les choses, il s'attirait à coup sûr les sympathies de la direction. Mais s'il choisissait la sympathie des filles, montrait quelque chaleur pour ces créatures, les visages de la direction devenaient aigres comme des choux, aigres et hostiles comme le froid mépris en personne. Une fois, il accompagna une femme jusque devant le seuil où sa marche l'avait conduite, en portant sa valise et pour ce service reçu de sa main gantée en franc. La serviabilité dont il avait fait preuve ne plut pas seulement à la dame mais à lui-même aussi. Une jolie conduite nous rend jolie, pas seulement à l'intérieur de nous-mêmes mais extérieurement aussi. Quand notre façon d'agir est agréable, cela s'imprime dans les traits de notre visage qui prennent un air gentil que l'on ressent. Tous les 8 jours, il prenait une douche sous le jet de laquelle il jouait au petit nègre que la pue faisait danser sur place. De cette douche, nous reparlerons peut-être tout à l'heure. Durant la première année de son séjour dans notre ville, qu'il se mit à aimer comme aucune autre auparavant, il travaillait par période en qualité d'employé aux écritures dans un département d'administration, à savoir les archives, où il était principalement chargé de composer des catalogues. De temps en temps, on lui donnait des commissions à faire et le dimanche, il s'envolait comme un oiseau dans la campagne environnante, zigzagant par-dessus champs à travers bois, jusqu'à ce qu'il trouve une hauteur pour se poser. Bizarre qu'on puisse occuper un brigand avec de la copie, disait le chef en souriant. Avec ce chef, il s'entretenait aussi souvent que l'occasion s'en présentait de l'essence de l'homme. Le brigand tenait alors derrière son pupitre des propos sombres, peut-être à cause de l'humeur qu'il éprouvait sourdement à être là, debout ou assis un temps interminable. Mais le chef le consolait en lui exposant sa conviction qu'il y avait autant de gens serviables et attentifs aux autres que de gens avides et incapables de s'associer à des efforts communs. L'idée le flattait qu'on lui fit l'honneur d'être, pour ainsi dire, l'objet d'un contrôle, d'une surveillance. Sans cela, il se serait peut-être depuis longtemps trouvé lui-même ennuyeux. Cette ainsi nommée persécution représentait pour lui la résurrection d'un monde englouti. Nous voulons dire son monde à lui, dont lui-même pensait qu'il manquait de vie. Puisqu'on lui prêtait attention, qu'on s'occupait de lui, on le comprenait, cela le réconfortait naturellement. En même temps, il constatait qu'en vérité, pas une âme ne se souciait de lui. On se contentait de lui barrer constamment un peu la route. Mais peut-être était-ce déjà quelque chose, beaucoup même, car les obstacles nous remuent, nous animent, nous élèvent. C'est bien connu. Il se disait qu'il devait faire attention. Du plus agité qu'il eût pu devenir, il devenait l'homme le plus tranquille. Mais pour cela, il prenait son temps. « Vous n'êtes jamais nerveux ?» lui dit une fille, comme si elle voulait lui en faire presque un petit reproche. Il ne se liait à personne. C'est surtout cela dont on l'accusait. Mais Fritz n'est pas comme cela. Je parle de ce jeune homme pas très sûr de lui qui habite là-haut dans les montagnes, où il passe son temps à cirer les chaussures. Son frère est instituteur et se sent un peu esseulé. Oui, il y a encore des hommes qui grandissent, qui ne sont pas devenus en un tour de main à une vitesse à faire peur, des produits finis extérieurement et intérieurement, comme si les hommes étaient des petits pains qu'on fabrique en 5 minutes et qu'on vend aussitôt, afin qu'ils soient consommés. Il y a encore, Dieu merci, des gens qui doutent, certains même qui ont l'instinct d'hésitation. Comme si tous ceux qui y vont carrément, qui savent mettre l'affaire dans le sac, qui font valoir des prétentions, étaient pour nous un exemple à suivre. Et pour le pays auquel ils appartiennent, de bons citoyens. Eh bien justement, non. Il y a des non-prêts mieux préparés que les déjà-prêts. Et des inutiles souvent beaucoup plus utiles que les utilisables. Je souhaite, moi, joyeuse vie dans notre temps aussi, à un certain luxe de l'homme, et une société tombe entre les mains du diable quand elle prétend éliminer toute forme de nonchalance et de relâchement. Ici se dresse brusquement devant les yeux du brigand la figure de la rejetée. Il y a des âmes qui ne s'ouvrent à la joie et n'en prennent conscience, longtemps après que parce qu'elles ont pu contribuer à empêcher un malheur, parce qu'elles ont su endurer la souffrance, parce qu'elles ont eu la chance d'épargner à un être supérieur une disgrâce qu'elles ont prise sur elles. Le mépris et l'humiliation qu'elles ont essuyé à sa place. Des âmes comme celles-là ne trouvent leur beauté, la fraîcheur, l'apaisement de leur soif que sous une pluie d'injustice qui les transperce. Et la main paraissait elle-même heureuse, paraissait sourire à l'absence de ménagement de son possesseur. S'il pouvait y avoir beaucoup d'âmes semblables à celles qui habitaient cette main muette, et que ces âmes pussent être éveillées, mises à la disposition d'un seul tout, que de forces sont négligées, brûlent d'être employées, brûlées, de vivre et de mourir en plein effort. Mais pourquoi à présent le brigand adresse-t-il à la bonne main cette petite tape de contentement ? Comme nous aimons tous jouer au grand, au protecteur, gens insensibles, rien ne nous fait autant croire à notre efficacité qu'une certaine pauvreté d'esprit, de sensibilité. Peut-être avons-nous raison sur ce point. Quand on se maîtrise, c'est qu'on a déjà évacué ses sentiments. Se maîtriser, cela signifie justement dépasser le sentiment, qu'il faudra pourtant bien retrouver, qu'on veut retrouver. Et en ce sens, la maîtrise serait instable. Les serviteurs, ceux qui prennent les coups, seraient les plus forts et les mieux remplis d'eux-mêmes. Et les maîtres seraient les inquiets, ceux qui ont besoin d'aide. Quant aux souffrances, elles seraient de deux sortes, heureuses et malheureuses. Et dominer représenterait une tâche qui dépasserait leurs forces et ainsi les rendrait malades.
Également issu des microgrammes « Affreux et voici pourquoi » de Anna Orozco et Jean-Raphaël Prieto.
Affreux et voici pourquoi. Atroce pour cette seule raison. Pas plus tard qu'hier, il avait fait l'expérience qu'il pouvait crier à tue-tête. À tue-tête ? Comme l'intention m'amuse, après avoir écrit les lignes que je prévois d'écrire ici, d'aller me balader dehors. Appeler au secours ? Non, il n'en avait pas même dit. Ces 5 ou 6 cris consistaient seulement en exclamations pas du tout étouffées, mais relativement hardies, fortes. assourdis, qui se suivaient à intervalles rapprochés. Ils étaient terribles, les cris et les accents que l'épouvante arrachait au cher, bon, pauvre enfant. Rebelle, obstinée, dure, têtue, capricieux, l'enfant était là, sans défense. Tout vent s'était arrêté. Pas un mouvement. Tandis qu'autour du lit dans lequel l'enfant était couché, l'absence de mouvement était immense. Grandes et petites, les pièces semblaient être les mêmes qu'au dernier jour de l'humanité et aux premiers instants de l'amorce de l'existence de la Terre, ce qui pourrait être une formulation plus poétique que scientifique, et plutôt rêvée ou pensée que déjà formulée. Car certes, d'un point de vue mondain, tout cela n'est pas toujours distingué. Pitié pour l'enfant. J'en appelle au monde dévot et charitable des lecteurs. Une vision d'épouvante avait arraché à sa gorge une expression d'effroi. La mère de l'enfant était belle. Elle l'était et le demeure. Et je lui souhaite de le rester longtemps encore. Elle ne chante pas. Elle n'est pas cantatrice. Mais aux oreilles de son bambin mal élevé, ses moindres paroles ressemblent à un chant. Écoute. On frappe. Quoi ? Comment ? Où ? Il fait nuit et on frappe. On cogne à la porte. On dirait des coups de poing. Et l'enfant dort et n'entend rien des battements nocturnes. Si, il est réveillé. Les coups précipités qui tambourinent en grêle sur la porte l'ont réveillé. Et à présent, il réfléchit longuement, prudemment, sur l'origine possible du vacarme. Et une partie de ses cheveux se dresse sur sa tête et un frisson parcourt sa peau. Le lecteur adulte sourira en lisant ceci. Mais pour l'enfant, il ne s'agissait pas d'un sourire ou d'une raillerie. Il voulait se plaindre, mais conscient qu'il était de ses innombrables étourderies ou péchés d'inattention, il ne trouvait pas le courage moral de se fâcher. Et dans cet état d'esprit, il se voyait contraint de se sentir en quelque sorte un enfant inférieur, méchant. Moi-même un immense respect pour les femmes, j'ose à peine faire savoir que la maman, par ailleurs soucieuse de son enfant, certes, l'avait, totalement insouciante, laissé à lui-même. Elle aura sans doute été occupée à griffonner quelque article pour quelque revue, etc. Concentré et entièrement absorbé dans ce labeur. Les tâches culturelles et littéraires dont elle se voyait accablée l'auront empêchée d'être à tous égards et uniquement une mère. Bien sûr, il peut y avoir une autre cause à son indifférence apparente. Mais pour revenir à l'enfant, sur la situation duquel je me penche avec plaisir, je donnerais beaucoup pour avoir, par rapport à la description de son hurlement, une conscience artistique parfaitement tranquille. Il était plongé dans une obscurité totale et une totalité obscure. Et sa terreur était en plus archi-sombre, au point qu'il finit, pour ainsi dire, par prendre peur. Essayons de le comprendre. Les quelques coups tonitruants sont réglés, fort heureusement. dans l'incertitude quant à l'origine des coups, je me mets par commodité à la place de l'enfant, auquel l'anxiété coupait presque le souffle et qui grimaçait un sourire désespéré, terrifié. « On ne devrait pas infliger cela à un enfant, » gémissait-il comme un jeune chiot, plongeant sur ses audaces tremblotantes, grelottantes, qu'il contemplait de toute son âme, l'élevant et l'abaissant tout à la fois, comme si elle considérait un gouffre et un ciel.
Subodorer dans mon enfant un exemple.